Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Le paludisme reste un problème sanitaire majeur dans notre pays. La forme la plus grave appelée paludisme sévère peut être fatale si une prise en charge appropriée n'est pas mise en œuvre immédiatement. Selon les experts, la rapidité du diagnostic et du traitement est cruciale pour prévenir la mortalité, notamment chez les jeunes enfants et les femmes enceintes. Alors, quelles sont les causes du paludisme sévère? Comment se fait la prise en charge de cette maladie? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions avec Dr Mouema François-Xavier, chef des divisions chargé de la prise en charge du paludisme au PNLP. Encore une fois, bonjour docteur.
Bonjour monsieur le journaliste.
Alors, l'année en 2014, il y a eu au moins, on a compté, recensé 21 000 cas des décès dus au paludisme sévère, notamment dans l'ex-Katanga et la province orientale démembrée. Alors, quelles sont les causes?
Oui, merci.
Du paludisme sévère.
Merci beaucoup de m'avoir invité. Tout d'abord, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur la définition de certains concepts. Qu'est-ce que c'est le paludisme grave? Le paludisme grave, c'est tout cas de fièvre accompagné d'un ou de plusieurs signes de gravité. Il y a des signes cliniques et il y a des signes biologiques. Donc, dans certains cas aussi, la fièvre peut être absente. Et tous ces cas de paludisme grave, l'agent causal, c'est le Plasmodium falciparum, qui est vraiment le principal agent qui cause le paludisme grave.
Donc, voilà. S'il y a un paludisme grave, ça veut dire qu'il y a d'abord un paludisme simple.
Oui.
Donc, il y a deux formes, il y en a plusieurs, il y en a combien finalement?
Bon, il y a deux formes. Pour arriver au paludisme grave, il faut commencer par faire tout d'abord le paludisme simple. Mmh. Et du paludisme simple, quand il y a une mauvaise prise en charge, et vous passez directement au paludisme grave. C'est ça. Donc, le paludisme grave ne survient pas d'une manière subite, non. Vous commencez par le paludisme simple, et lorsqu'il y a une mauvaise prise en charge, vous évoluez vers le paludisme grave.
Mais c'est quoi, quand vous parlez des mauvaises, c'est quoi la mauvaise prise en charge?
Tout d'abord, il y a plusieurs causes. Donc, une mauvaise prise en charge, si vous avez un cas de paludisme simple et que la prise en charge, dont le diagnostic n'est pas posé directement, d'une manière rapide, ou bien il y a le retard dans l'instauration du traitement. Vous prenez des médicaments qui ne sont pas efficaces.
Ça, des médicaments contrefaits?
Oui, des médicaments contrefaits, des médicaments périmés, des médicaments sous standard, tout ça. Et vous évoluez rapidement vers un paludisme grave. Et surtout, il y a une couche de la population qui est vraiment vulnérable. Ce sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes.
Voilà. Et souvent, quand on commence avec le paludisme simple, on parle de malaria plus 1 plus 2 plus 3, 4. Docteur, qu'est-ce qui différencie ces différents types ces différents stades de maladie?
Oui. Tout d'abord, le paludisme simple. Donc, vous avez un tableau clinique. Il y a la fièvre, soit des céphalées, des courbatures. Et vous posez d'abord le diagnostic par une confirmation biologique. Et dans le cas du paludisme simple, donc vous avez ce tableau-là, sans signe de gravité. Il y a des signes de gravité clinique et biologique. Je vais vous donner par exemple un signe de gravité. Par exemple, des convulsions à répétition. Un enfant qui a convulsé en 24 plus de 2 fois, par exemple. Ou bien des hallucinations. Ou bien fatigue extrême. Ou bien des vomissements incoercibles. Donc ça, c'est un signe de gravité clinique. Bon, il y a aussi des signes de gravité biologique. Par exemple, un enfant qui a fait la fièvre et qui devient anémique. Le taux d'hémoglobine qui a diminué, par exemple. Tout ça. Donc, paludisme simple, il n'y a pas de signes de gravité. Mais en cas de paludisme grave, vous avez et la fièvre, mais vous avez un ou plusieurs signes de gravité dont je viens de vous citer.
Des confusions, des vomissements.
Des vomissements, tout ça, le coma, tout ça. Ça
le coma, aussi, l'anémie.
L'anémie, ça
au moins, Nassili Makila, oui, c'est ça. On court vite à l'hôpital, là, on n'a plus de sang.
C'est ça, ce sont des signes de gravité.
De gravité.
Et toujours, il faut une confirmation biologique. Et l'agent causal, comme je l'ai dit, c'est le Plasmodium falciparum.
Mais si l'enfant est déjà dans cet état-là, avec ce genre de signes, il faut le soumettre directement au traitement ou bien il faut encore faire des examens au laboratoire pour être sûr qu'il s'agit d'une forme grave.
Un enfant, par exemple, qui est anémique, ce qui est urgent, ce qui peut faire tuer l'enfant, c'est son anémie. Donc il faut tout d'abord commencer à corriger son anémie. C'est ça ce qui est urgent. Un enfant qui est en hypoglycémie, il faut corriger sa glycémie. C'est ça qui peut le tuer. Et ensuite, vous faites les examens pour confirmer si c'est pour mettre en évidence le parasite, l'agent causal, donc le Plasmodium falciparum. Donc, ce qui tue, c'est surtout les complications qui surviennent en cas de paludisme.
Et là, dans ce cas-là, il faut d'abord chercher à perfuser,
à transfuser cet
enfant.
Transfuser cet enfant. Voilà. S'il est en hypoglycémie, il faut corriger l'hypoglycémie. Si c'est un enfant qui est tenté de convulser, il faut faire vite pour arrêter les convulsions. Voilà. C'est ça ce qui est urgent. En urgence, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pour cela, on dit, voilà, que la prise en charge du paludisme est grave, c'est fait dans un hôpital, là où vous avez un plateau technique approprié. Parce que vous êtes dans un dispensaire. Un enfant qui fait l'anémie, qu'est-ce qu'un infirmier dans un dispensaire peut faire s'il ne sait pas faire la transfusion immédiatement? Ou bien quelqu'un, un adulte qui est dans une insuffisance rénale, par exemple. Une des complications du paludisme est grave. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un
dispensaire? Donc il faut rapidement référer.
Oui, c'est ça.
Dans un grand centre.
Dans un grand centre, oui, c'est ça.
Paludisme sévère, quelles sont les causes et remèdes? Docteur Moïma François Xavier, chef des divisions chargé de la prise en charge du paludisme au programme national de lutte contre le paludisme, est notre invité. Mais ces derniers temps, on apprend qu'il y a un peu plus des cas des paludismes sévères, docteur. Est-ce que vous avez remarqué cela ou bien c'est juste des cas isolés?
Bon, c'est ça que je dis, voilà, qu'on se mette d'accord sur la définition du paludisme grave. J'ai dit, voilà, que tout cas de fièvre accompagné d'un signe ou de plusieurs signes de gravité et dont l'agent causal est le Plasmodium falciparum. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et très souvent, je vous donne un exemple, quelqu'un qui sort, par exemple, de sa voiture, il dit, voilà, que on m'a dit que je souffre du paludisme grave et on va le soumettre sous des perfusions. Non. Quelqu'un qui est tenté de marcher, de parler correctement. Donc, en cas de paludisme grave, c'est ce que je vous dis, ces signes-là de gravité, le coma, l'hypoglycémie, l'anémie, l'hallucination, voilà. Et le cas, ce qu'on est tenté de poser dans le dispensaire, très souvent, ce ne sont pas des cas de paludisme grave, ce sont des cas de paludisme simples. Mais, comme on a l'habitude de rapporter les résultats, de voilà que vous avez trois fois plus, c'est que c'est grave, on commence à vous soumettre sous des perfusions de quinine. Non. Là, ça nous n'appelle pas que c'est un cas de paludisme grave. Donc, il faut qu'il y ait cette association des signes cliniques et des signes biologiques.
Voilà. Un auditeur nous écrit, Kairi Matembera, depuis Kalimi, il dit, qui peut être l'origine de la malaria qui fait sécher le sang, surtout chez les enfants, et c'est très fréquent ici à Kalimi.
Oui. Donc, la complication qui arrive très souvent en cas de paludisme grave, c'est l'anémie. Parce que vous savez, le parasite attaque les globules rouges. C'est la destruction des globules rouges. Et pourquoi est-ce qu'un enfant fait facilement l'anémie? En regardant seulement la quantité de sang d'un enfant par rapport à un adulte, vous, la quantité de sang c'est à peu près 4 à 5 litres. Mais un enfant, il a moins, sa quantité est moindre. Donc facilement, lorsqu'il fait le paludisme grave, qui attaque les globules rouges, facilement il perd beaucoup de globules rouges et il fait l'anémie facilement. Voilà, c'est ça.
Et c'est ça qui peut le tuer si on tarde.
Aussi on tarde. Parce que l'urgence, c'est de remettre le...
Et quels sont les signes qui peuvent alerter les parents que l'enfant n'a plus de sang? Il faut l'amener rapidement à l'hôpital.
Bon, très souvent, les mamans savent distinguer ça. Voilà, les pommes de main qui deviennent pâles.
Pâles, oui.
Les conjonctives palpébrales aussi deviennent pâles. L'enfant est déjà dans une décompensation cardiaque, tu vois, avec une respiration rapide. Oui. Et cliniquement, quand vous examinez cet enfant-là, il a déjà un gros foie. Le foie qui a augmenté de volume et qui est sensible.
Deux auditeurs en ligne, Gentil Oumanou de Kananga, Freddy Dunda est à Kikwit. Vous voulez également participer, poser des questions à notre invité, appelez au 081 890 63 94.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Paludisme sévère, cause et remède, Gentil Oumanou de Kananga. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à notre invité du jour.
Bonjour.
Ok, ma question est de savoir, par quel signe on peut déterminer que, parce qu'on parle que la fièvre c'est une signe générale de plusieurs pathologies. Alors je voulais demander à notre invité, par quel signe on peut déterminer que la fièvre dont les patients souffrent, c'est la fièvre de paludisme? Ça c'est ma première question. La deuxième question est de savoir par quel mécanisme l'hydrophobe, qui sont les agents causants des paludismes, parvient à atteindre le cerveau pour créer un nouveau paludisme dont on appelle un neuropalie. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, je voulais demander à notre invité de nous donner la différence qui existe entre les paludismes simples, les paludismes graves et les neuropalies. Alors, je voulais aussi demander à notre invité, on peut placer... Ok, mais c'est ça les trois questions que je voulais demander à notre invité.
Merci, Fred. D'accord, Freddy Dunda de Kikwit, bonjour, quelle est votre question?
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai peut-être des petites questions. La première, c'est que l'invité puisse m'établir les différents types de... le paludisme qui existe. La deuxième, c'est celle de savoir la différence entre le paludisme grave, forme anémique et neurologique. C'était ça mes deux petites questions.
Bien, John, vous êtes à Dungu, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, je suis à l'autre.
Quelle est votre question, John, de Dungu?
Ok, merci M. le Président. Je voudrais juste savoir, parce que l'invité a bien expliqué tout au début, que non, le paludisme nous présente une forme de fièvre, y compris quelques signes de gravité, de l'origination. Alors, je voudrais demander à notre invité de nous aider, parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça qui nous sont appris de constater. Les malades développent le signe de paludisme grave et ils nous présentent les hallucinations. Parfois, la famille a décidé d'envoyer un médecin spécifique. Alors, dans ce cas, quels sont les conseils que les médecins peuvent nous donner?
La famille a décidé d'amener le malade où ça? Voir les féticheurs. D'accord. Docteur François, vous avez la parole. François Xavier.
Oui, on peut me rappeler pour le...
Oui, le premier intervenant de Kananga, Gentil Oumanou, dit par quel signe détecter la fièvre qui est causée par le paludisme grave?
Oui.
D'après lui, il y a plusieurs types de fièvre. Maintenant, la fièvre qui est liée au paludisme grave.
C'est ça que j'ai dit au début. Il y a la fièvre et ensuite, il faudrait qu'il y ait l'association des signes de gravité. Et l'agent causal, c'est le Plasmodium falciparum. Cela veut dire, pour poser le diagnostic biologique, vous faites la goutte épaisse et le frottis mince. Là, vous mettez en évidence le Plasmodium falciparum. Vous êtes sûr que maintenant, vous êtes devant un cas de paludisme grave. Fièvre, avec un ou plusieurs signes de gravité, avec la confirmation biologique en faisant la goutte épaisse plus le frottis mince, là où vous mettez en évidence le Plasmodium falciparum, qui est la, l'agent causal du paludisme grave.
Et alors, il dit à quel moment le palud peut atteindre le cerveau?
Oui. Ça nous entre un peu dans la physiopathologie du paludisme grave. Comme le parasite attaque les globules rouges, et le parasite qui circule dans l'organisme, et il a une préférence d'aller beaucoup plus se loger dans la circulation, dans les tissus profonds, dans les capillaires. Et là, il y a obstruction des capillaires. Vous voyez un peu ce que ça s'appelle, ça donne une ischémie, donc le cerveau n'est pas bien vascularisé.
Bien irrigué.
Bien irrigué, voilà, c'est ça, c'est le mot. Et toutes les conséquences qui sont qui surviennent à cause de cette mauvaise irrigation du cerveau.
Voilà. Donc le microbe va se loger au niveau du cerveau.
Au niveau du cerveau, au niveau des capillaires profonds.
C'est ça qu'on appelle méningite.
Non, la méningite, ça c'est une autre.
Oui, il y a certains, quelqu'un parlait de neuro.
Oui, évidemment. Oui. Dans ces cas-là, vous pouvez avoir maintenant un cas de paludisme grave, forme neurologique. Ouais. Mmh. Avec des, très souvent, le signe vraiment en cas de neuropaludisme, c'est le coma.
C'est le coma.
Le coma.
Et le malade entre dans le coma pendant combien de temps? Un coma profond ou bien?
Oui, un coma profond. Si vous n'intervenez pas le plus rapidement possible, le malade va succomber.
Bien, il dit, quelle différence vous faites entre le paludisme simple, grave, et le neuropalud, tel qu'il a dit?
Oui, le neuropaludisme fait partie du paludisme grave. Il y a plusieurs formes cliniques de paludisme grave. Il y a des formes neurologiques. Mm-hmm. Il y a des formes psychiatriques.
C'est
il y a
ça
des
qu'on appelle malaria cérébrale.
Ah oui, c'est ça.
D'accord.
Il y a des formes pulmonaires. C'est ça.
Bien. Et Freddy revient sur les différents types de paludisme. Donc vous l'avez déjà dit. Les différences entre paludisme simple et neurologique. Vous venez également de les dire. Alors, John de Dungu nous dit que quelqu'un a développé des signes de paludisme grave. Au lieu d'amener à l'hôpital, on préfère aller voir d'abord les féticheurs et pour résoudre le problème.
C'est ça, il voit. Parmi les signes de gravité, j'ai parlé de hallucination. C'est ça. Donc, c'est un signe grave. En cas de paludisme.
Des hallucinations.
Des hallucinations.
Qu'est-ce qui se passe, la personne?
La personne, il peut voir, c'est une tante qui vient, par exemple,
vient me prendre.
La personne malade voit des décédés, ils sont pas là.
Voilà, c'est ça. Et la famille se dit, sûrement un problème spirituel.
Voilà,
on va voir les féticheurs.
Voilà, c'est ça.
Et ça arrive souvent, ce genre de situation?
Oui, ça arrive très souvent. Et parfois, certains malades que vous voyez dans la rue, qu'on traite, voilà, ceux que vous appelez des fous, mais des malades psychiatriques, parfois ce sont des cas de paludisme grave, ils sont en train de voir des choses, une vision, tout ça, et vous croyez que ce sont des problèmes spirituels, non.
Donc, faut pas aller voir les féticheurs, il faut l'amener rapidement.
Il faut l'amener rapidement, parce que j'avais parlé au début. Parfois, j'ai dit voilà que c'est tout cas de fièvre, avec un ou signe de gravité, mais la fièvre peut être aussi absente en cas de paludisme grave. Mais vous avez les autres signes de gravité, c'est pour ça qu'il faut amener le patient, le suspect dans un centre hospitalier. Là où il faut une confirmation biologique, c'est ça que je répète à chaque fois.
D'abord une confirmation biologique au niveau du laboratoire.
Au niveau du laboratoire.
Clément Daye nous appelle des Kananga. Bonjour Clément.
Bonjour, bonjour aussi à notre invité.
Quelle est votre question?
Je voudrais juste demander à notre invité à ce qu'il nous donne normalement les cycles évolutifs de l'agent causal qu'il a appelé Plasmodium là. Et aussi, la deuxième question, est-ce qu'il y a-t-il, ou bien il existe-t-il une lutte curative ou bien préventive pour combattre normalement le paludisme? Et ici, la troisième question, est-ce qu'il y a-t-il des moyens qu'on peut utiliser à ce qu'on chasse normalement les agents causaux du paludisme? Et aussi la préoccupation entre jeudi. J'espère que vous avez déjà écrit mon message, alors j'attendrai votre réaction par après. Merci.
Shukran Ayuma nous appelle de Kindu. Bonjour.
Bonjour, jeudi. Bonjour, l'invité.
Et quelle est votre question?
Moi, j'avais deux questions à poser à l'invité. et quels sont les signes que le paludisme simple représente et quels sont les signes de paludisme grave représente.
Oui.
Merci.
Merci, docteur Mouema.
Oui. D'une manière brève, je vais vous parler un peu du cycle évolutif. Il y a le cycle tout d'abord qui évolue. Donc, la forme sexuée chez le moustique, donc l'anophèle femelle. Et puis, il y a le cycle qui évolue chez l'homme. Donc, je vais beaucoup plus parler du cycle qui évolue chez l'homme. Donc, lorsque le moustique injecte le parasite dans l'organisme, dans la circulation sanguine, le parasite passe directement au niveau du foie. Là, il y a un cycle qui se produit. Et du foie, maintenant, il y a la libération de parasites qui vont attaquer les globules rouges. Comme le parasite utilise beaucoup plus l'oxygène dans son développement, c'est ça qui fait que lorsqu'il y a éclatement de globules rouges, vous voyez que le malade qui devient anémique, il a maintenant beaucoup plus besoin d'oxygène. C'est ça qui explique un peu la respiration rapide. Mmh. Voilà. Donc, du foie, les parasites, d'une manière brève, ça passe dans les globules rouges, éclatement de globules rouges, et le cycle continue. Quand le moustique vient prendre son repas sanguin, il prend des gamètes, des gamètes mâles et femelles qui vont continuer maintenant le cycle encore chez le moustique pendant un temps jusqu'à ce qu'à produire des sporozoïdes qui arrivent dans les glandes salivaires du moustique. Mm-hmm. Et lorsque le moustique pique l'homme, il injecte des sporozoïdes, donc d'autres formes de parasites qui vont aller faire le cycle dans l'organisme. C'est ce que je vous ai dit. Donc, de la circulation sanguine, le foie, le globule rouge et le
moustique. Voilà, ça, c'est trop technique hein, pour nous. Alors, y a-t-il une cure préventive pour le paludisme, pour cette forme de paludisme grave?
Non.
Est-ce qu'on peut soumettre le malade à une cure préventive? Non, c'est plutôt pour un paludisme simple.
Oui, pour un paludisme simple. Avant même de faire le paludisme simple, oui, et chez nous, l'arme la plus efficace contre le paludisme,
oui,
c'est l'utilisation correcte de la moustiquaire imprégnée
d'insecticides.
Parce que j'ai dit que pour arriver au paludisme grave, vous passez par le paludisme simple.
Bien sûr.
Voilà.
Olivier Kassindoé, Takikuit, bonjour.
Bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
En fait, c'est pas une question, c'est juste une petite contribution, une clarification. Je voulais que l'invité insiste sur une chose, c'est que quand il dit vous faites la goutte épaisse, le frottis mince, il faudrait pas que les parents ou que les personnes pensent que c'est eux qui doivent faire, parce que très souvent nous avons remarqué que les parents ont tendance à aller dans un laboratoire au lieu d'aller se faire consulter par un médecin. Alors il négocie avec un laboratoire et le parent lui-même dit faites-moi la goutte épaisse. J'aimerais que l'invité insiste sur le fait que, en fait, c'est la relation entre le médecin et le laboratoire, c'est celle-là qu'il devait favoriser, et pas la relation directe parent-laboratoire. Voilà, c'est cette contribution que je voulais apporter à l'émission.
Merci. Certains parents sont devenus, se sont transformés en médecins pour donner des ordres à ceux qui travaillent au laboratoire.
Dans la communication, comme dit, voilà, que quand vous faites la fièvre, allez consulter, allez voir un agent de santé. Tout d'abord, c'est lui qui va vous orienter. Mmh. C'est ça. Mais il a raison, c'est ce que nous disons à tout malade.
Mais comment se fait-il que certains parents vont directement vont au laboratoire?
Oui,
c'est pour ça, demander la goutte épaisse.
Ça, c'est une attitude à déconseiller. Hein? Parce que toute fièvre n'est pas égale au paludisme. Et il n'y a que celui qui a la compétence qui peut vous dire voilà que cette fièvre, c'est dû à telle pathologie. Donc, pour poser les diagnostics, c'est ce que je dis, voilà que c'est une association tout d'abord des signes cliniques et biologiques.
Alors, on arrive avec un malade qui est anémique. Donc, on doit d'abord, vous avez dit, transfuser. pour stabiliser sa situation.
Oui.
Et après, quels sont les traitements qu'on va donner pour attaquer maintenant cette maladie, la malaria?
Si c'est une anémie, si c'est prouvé que cette anémie est due au paludisme, après avoir transfusé, maintenant il faut mettre le patient sous des antipaludiques appropriés et des antipaludiques efficaces. Et dans notre pays,
par perfusion, généralement, par perfusion, ça passe, les médicaments passent rapidement.
Oui. Et dans notre pays, selon notre politique, au programme, nous avons deux molécules principales que nous utilisons en cas de paludisme grave, la quinine en perfusion ou l'artesunate injectable, pardon. Donc, la molécule, la quinine en perfusion ou l'artesunate injectable. Ce sont les deux molécules que nous utilisons en cas de paludisme grave dans notre pays.
Voilà, Odin et Congo, vous êtes en Bandaka, en Poutou, à Bandounouville. Odin, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour aussi à notre invité.
Oui, quelle est votre question, Odin?
Oui, je m'excuse parce que la question que je vous posais, je ne sais pas si ça sera hors cadre, mais je peux même essayer. Donc,
bon, arrangez-vous pour que ça ne soit pas hors cadre. Hein.
Oui. Donc, d'après tout ce qu'il vient de nous expliquer, et d'après tout ce que moi je sais, et tout le monde le sait aussi, on dit que la malaria tue plus que même les sida. Mais je sais pas si l'invité peut nous dire par rapport aux stratégies que le gouvernement essaye de monter pour prendre en charge les gens qui tombent souvent malades avec le paludisme. Alors je sais pas si il peut nous dire, parce que la malaria tue plus que même les sida.
D'accord.
Est-ce qu'on ne peut pas prendre en charge les gens qui viennent avec telle maladie, parce que la malaria tue, vraiment tue. C'est ça au moins ma question, monsieur le journaliste.
D'accord, merci. Mputu, vous êtes à Bandounouville, bonjour.
Bonjour, Jody, bonjour à l'invité, bonjour aussi au président de la Radio Capi.
Quelle est votre question, Mputu?
Ok, il y a déjà mes prédécesseurs qui viennent de détecter aussi beaucoup de choses, mais je voudrais tout d'abord savoir ce que c'est la tofu. Parce que très souvent, je peux dire tout congolais, quand vous allez au laboratoire, on vous envoie au laboratoire, on dit vous avez la tofu. Même si c'était peut-être une autre fièvre, ou la fièvre typhoïde, ou un peu de grippe comme ça, très souvent on voit là-bas tofu. Par exemple, moi-même, je n'ai jamais eu la malaria. Je n'ai jamais été au laboratoire, on me dit 2 plis ou 3 plis de malaria, mais souvent on se limite par trop faux. Et les médicaments de la malaria sont vraiment des médicaments qui ont des effets nocifs, beaucoup d'effets secondaires. Alors quels sont les bons médicaments pour la malaria et aussi le médecin à prendre, surtout pour la malaria cérébrale? C'est ce qui donne vraiment des dislocations dans des familles, parce que il y a des coumas, et puis il y a des dires qui sort à la bouche de celle qui tombe en coma, et puis ça donne aussi des émotions, et puis ça donne des dislocations. Et très souvent les familles se dispersent comme ça. Ah, je vois quelqu'un qui vient me prendre, je vois ceci, cela, et enfin ça sent pas comme si c'était une sorcellerie pendant que c'est la malaria.
Merci pour tout. Merci
pour tout. Quels sont les mesures à prendre pour cela? Souvent aussi.
Merci pour tout, docteur. Même.
Oui. Donc, comme j'ai dit, voilà, notre gouvernement est en train de faire un effort pour prévenir la malaria. Tout d'abord, c'est vous avez toujours suivi la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Ça, c'est la première prévention. Une mesure préventive importante, où tout le monde, où chaque Congolais doit dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Ça, c'est la prévention. Comme je l'ai dit, avant de passer au paludisme grave, vous passez par paludisme simple.
Paludisme simple, bien sûr.
Donc, c'est ce qui est très important. C'est la prévention. Mmh. Il n'y a pas de médicaments qu'il faut prendre avant pour ne pas faire le paludisme simple. Non. Donc, c'est l'utilisation de la moustiquaire, évidemment. Il faut aussi assainir Le milieu. Voilà.
Pour éviter les moustiquaires. Oh,
pour éviter à ce que les moustiques se multiplient. Mmh. Parce que les moustiques se multiplient dans des eaux stagnantes un peu claires, là. Voilà. Hein, qui ne coulent pas. Voilà. Donc il faut assainir,
les milieux, dormir sur la moustiquaire
imprégnée, oui c'est ça,
d'insecticides. Oui. Alors Mpoutou veut savoir, et chaque fois au laboratoire on le dit, des tronfons, qu'est-ce que cela veut dire?
Bon, enfin, il y a un problème, ça je peux vous dire que pour donner des bons résultats au laboratoire, il faut avoir tout d'abord de la compétence. Donc un laborantin bien formé. Et là c'est vraiment le grand défi que nous avons dans notre pays.
Il donne pas les résultats aux malades, c'est aux médecins.
Oui, mais
il a demandé l'examen.
Oui. Est-ce que quand le laboratoire il tentait de donner ces résultats-là, ce sont des bons résultats? C'est ça qui dit, voilà, que il faut tout d'abord avoir un bon microscope. Il faut avoir, bien colorer vos lames. Il faut avoir des bons réactifs.
Quand il dit trop fond, des quoi?
Oui, c'est ça. Donc, c'est la forme des parasites. Mmh. Quand je dis, voilà, que après, quand le parasite est passé par le foie, il y a un cycle au niveau du foie. Puis, ça passe maintenant dans la circulation sanguine. Ce sont des trophos. C'est ça qu'on voit au microscope. Mmh. Des trophos, soit des gamétocytes. Très rarement, on peut voir des mérozoïdes. Mais ce sont des trophos qu'on voit.
Voilà. Et ça, il faut pas dire aux malades. Les malades n'y comprennent rien.
Donc, oh, ils comprennent.
Eh bien, paludisme, pour éviter les paludismes sévères, on retient qu'il faut d'abord prévenir le paludisme simple. Parce que ça commence par là, ouais, puis ça se complique plus tard.
Oui.
Et quand, en cas de paludisme sévère, il faut rapidement aller dans un centre de santé ou dans un hôpital de référence, hein, où la prise en charge sera plus ou moins correcte.
C'est ça.
Et il faut prendre rapidement un malade, mettre rapidement le malade sous traitement.
Oui.
Bien, merci docteur Moïma. François-Xavier, chef des divisions chargées de la prise en charge du paludisme au PNLP. Bonne journée.
Merci, c'est vrai que je vous remercie.